André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le déploiement en RDC de la brigade d'intervention de la MONUSCO est imminent. Cette force sera composée d'un peu plus de 3000 casques bleus et disposera d'un mandat spécifique, neutraliser les groupes armés dont les M23. L'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, est arrivée dimanche 28 avril dans la soirée à Kinshasa. Elle entame déjà une tournée régionale consacrée à la mise en œuvre de l'accord d'Addis Abeba sur la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, le M23 continue à intensifier sa communication contre cette force. Selon vous, que traduit cette intense communication du M23 et que pensez-vous de cette force? Vous êtes tous les bienvenus dans ces débats avec vos interventions. Composez le 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net ou déposer vos commentaires sous notre page Facebook. Titi Poutou est à la réalisation, assisté par Berry Franklin Luchaka et Jean-Claude Tiala, sous la supervision de Nicole Gaka et la coordination de J.R. Lungembo. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Addis Abeba, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson, poursuit sa tournée dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, elle a quitté Kigali pour se rendre à Kampala où elle devrait s'entretenir avec le président Yoweri Museveni. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a débuté sa première visite dans la région par l'étape de Kinshasa le 29 avril dernier. Nous avons dans ces studios Manoj Mounoubaï, porte-parole de la MONUSCO, pour débattre, pour échanger et orienter vos préoccupations dans ce studio. Donc, je disais, bonjour Manoj Mounoubaï.
Bonjour.
Voilà, quand Mary Robinson renvoie tout le monde au respect de l'accord d'Addis Abeba, au moment où tous n'attendent que le déploiement en RDC de la brigade, donc, que peut inspirer cela aux uns et aux autres?
D'abord, je pense que le message qui sous-tend cette communication de Mme Robinson est que il ne faudrait pas que les gens soient focalisés seulement sur une solution militaire. Mais aussi, il faut que les gens croient et privilégient les solutions pacifiques par les voies du dialogue, par les voies des échanges, par les voies des discussions. Je pense que, par-dessus tout, c'est ça le message principal qu'elle a voulu faire passer.
Alors, la tension est montée d'un cran juste après l'accord d'Addis Abeba et le vote de la résolution 2098. Le M23 intensifie sa communication contre le déploiement de cette force, recrute des mineurs à Rutshuru, renforce leur position, retire ses représentants aux discussions des Kampala avec le gouvernement congolais. Qu'est-ce que cela peut traduire?
Bon, je ne parlerai pas pour le M23. Le M23 peut parler pour lui-même, mais je pense que cela dénote, dévoile une certaine frivolité de ce côté-là, et une certaine nervosité qu'il faut noter. Mais je pense que le M23 aurait gagné et gagné beaucoup en faisant une déclaration pour dire qu'elle abandonnait la lutte armée, qu'elle déposait les armes et qu'elle s'engageait résolument dans la voie pacifique de règlement du conflit qui l'oppose au gouvernement central. Ça va clarifier les choses. Mais nous notons que le comportement belliqueux du M23 n'a pas changé, que le M23 fait des menaces, que le M23 se dit prêt à la guerre. Par conséquent, nous pouvons tirer la conclusion que le M23 privilégie encore la voie des armes, l'utilisation de la violence pour faire entendre sa voix et dans cette opposition qu'il a vis-à-vis du gouvernement central.
Et ces menaces n'inquiètent pas les Nations Unies?
Bon, Inquiété, je dirais non. Cependant, nous sommes quand même réalistes. Nous ne nous voilons pas la face. Je dis inquiété, non. Pourquoi? Parce que le M23 a toujours été un mouvement violent. Le M23 a toujours utilisé les armes. Donc, vis-à-vis du M23, nous savons à quoi nous attendre. Par conséquent, nous dire que nous sommes surpris n'aurait pas été correct. Nous ne sommes pas surpris, nous constatons simplement que le M23 s'enfonce, s'entête dans la voie de l'utilisation de la force, de la violence, des armes.
Alors nous avons également en ligne le colonel Prosper Félix Bass qui est avec nous pour nous éclairer également sur certaines questions liées donc à cette force. Colonel, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Kinshasa.
Voilà, alors d'entrée des jeux, juste, je disais tantôt, jusque-là, trois pays ont exprimé le vœu de contribuer à cette force. Et bon nombre s'inquiètent notamment de la capacité de guerre et de combat de ces troupes. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça?
Non, pas spécifiquement, mais je voudrais tout simplement demander à tous ceux qui doutent de la capacité opérationnelle des troupes de ces trois pays contributeurs de troupes, de faire très attention, parce que ces pays, d'abord, il faut se féliciter de la volonté exprimée par ces pays à prendre part à cette brigade d'intervention afin de ramener la paix au Congo, afin de restaurer l'autorité de l'État. Donc, un commentaire sur la capacité opérationnelle de ces troupes, je pense qu'il serait prématuré de préjuger de cette capacité. Une fois sur le terrain, nous aviserons.
Le déploiement de la brigade est imminent. Vous aviez communiqué ainsi plusieurs fois. Alors, d'aucuns aimeraient en avoir un cœur net hein, sur les calendriers du déploiement, proprement dit.
Effectivement, la dynamique est déjà enclenchée concernant le déploiement de cette brigade d'intervention. Et pour preuve, nous avons déjà sur le terrain le général commandant la brigade d'intervention qui est déjà à Goma depuis au moins une semaine. Donc le déploiement, on peut considérer qu'il est déjà en cours. Toutefois, vous donnez un délai fixe concernant une date précise concernant le déploiement. Je ne saurais m'aventurer là-dessus, mais je vous dis que le déploiement a déjà été initié par l'arrivée du général commandant de la brigade. Et d'ici très peu, nous verrons les premières troupes arriver.
Oui, on parlait du mois de juillet.
Pardon ?
On parlait tantôt du mois de juillet 2013.
Non, je ne saurais m'aventurer dans des spéculations de ce genre, mais la dynamique est enclenchée et très bientôt nous verrons les premières troupes arriver.
Voilà, alors aujourd'hui, le fait qu'on a renforcé le mandat de la MONUSCO sur les terrains, comment les choses vont-elles se passer? La collaboration entre les 17 000 casques bleus de la MONUSCO et les 3 000 de cette force d'intervention.
Oui, vous avez parfaitement raison de parler du renforcement de la force par une brigade d'intervention suite à l'adoption de la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Cette brigade aura pour mission essentielle de conduire des opérations offensives ciblées ou de manière unilatérale ou en collaboration avec l'armée congolaise. Donc l'objectif premier de cette brigade sera de poursuivre et de neutraliser les groupes armés afin de réduire la menace que ces groupes armés posent à l'autorité de l'État et aux populations civiles. Mais cet effort contribuera aussi à donner un peu plus de place pour les activités de stabilisation qui sont initiées par toutes les agences et des Nations Unies et du système des Nations Unies, mais aussi par la MONUSCO.
081-890-43-39 ou encore le 081-890-63-15 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons le premier auditeur qui est en ligne. Franklin est à Bukavu, au sud Kivu. Bonjour Franklin.
Oui, bonjour Monsieur Gir, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Franklin,
mon intervention concernant le sujet du jour a deux volets.
Mm-hmm.
D'une part, je commence par saluer l'avenir de cette, l'avenir imminent de cette force internationale, parce que c'est depuis plusieurs années que la MONUSCO se trouve en République démocratique du Congo, et nous voyons le travail qu'elle est en train d'abattre ici, et moi je pense que cette force, cette nouvelle force viendra apporter un ouf de soulagement, viendra apporter un plus sur le travail qu'a dans la MONUSCO. Mais moi je pense une seule chose. Je pense à une seule chose, parce que même si on peut déployer toute une armée du monde sur la RDC, si le gouvernement congolais ne veut pas lui-même se mettre d'une manière résolue, d'une manière déterminante à la résolution des plusieurs conflits qui se vivent au pays, je pense qu'on ne pouvait pas, on ne peut pas arriver à une solution. Et donc, la défense nationale est une affaire de la souveraineté nationale. Bien sûr, les organisations internationales, dont la RDC est membre, peuvent venir en aide à la RDC, c'est un discompétent, et je salue ça, mais il faut que le gouvernement elle-même, le gouvernement lui-même se mette en œuvre pour résoudre une fois pour toutes la question de la sécurité qui se vit à l'est du pays. Et donc, moi je salue l'arrivée de cette force, mais j'ai quelques questions à poser à notre invité qui est déjà dans le studio.
Voilà.
D'accord. Nous avons suivi Mme Robinson qui dit que chaque gouvernement doit tenir son engagement, chaque gouvernement signataire. Mais au cas où il y a encore des dérapages, il y a encore des gouvernements qui dérogent à leurs obligations, quelles sanctions prévoit l'ONU pour ces gouvernements-là? Et après, quelles sont les contraintes que notre invité qui représente l'ONU là-bas, quelles sont les contraintes que l'ONU a identifiées qui peuvent faire face à ce que la force internationale maître n'arrive pas à ses objectifs? Quel type de contraintes ils ont déjà envisagées? Et pour terminer, je pense que à la position actuelle que se trouve le M23, moi je pense que le M23 est à perte de vitesse. Il faut vraiment mettre des pressions sur ce mouvement rebelle-là, et je pense que ça ne sera pas facile, bien sûr, mais au regard de la situation, avec toutes ces réductions-là, je pense que le M23 est à perte de vitesse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Franklin, d'avoir appelé de Bukavu. Nous prenons Blanchard qui est à Kinshasa. Bonjour, Blanchard. Blanchard, vous êtes avec nous? Voilà, Blanchard, voilà, on a des soucis là avec Blanchard, parce que c'est une question qui a été posée à notre invité, M. Manon Dumoulaye. Disons, Franklin parle de sanctions, hein, disons, par rapport au gouvernement qui ne pourront pas, qui ne seront pas à même de pouvoir répondre aux engagements par rapport à l'accord d'Addis Abeba.
D'abord, je commencerai par dire que la résolution 2098 La résolution 2098 n'empêche pas le gouvernement ou n'enlève pas au gouvernement ses prérogatives. Et je lirai ce qui est écrit dans la résolution 2098 que le Conseil de sécurité souligne que le gouvernement de la République démocratique du Congo est responsable au premier chef de la sécurité, de la protection des civils, de la réconciliation nationale, de la consolidation de la paix et du développement dans le pays. Ça, c'est clair. Donc, le gouvernement reste en premier lieu responsable pour ramener la paix et la sécurité ici. La question est de savoir qu'est-ce qui est prévu si chacun ne respecte pas ses engagements. Je crois qu'il faut encore une fois aller dans l'accord d'Addis Abeba. L'accord d'Addis Abeba précise les responsabilités des uns et des autres. D'abord, d'un côté, il y a les pays de la région qui ont chacun des responsabilités, et de l'autre, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et l'accord d'Addis Abeba a aussi mis en place un groupe composé de témoins que sont le secrétaire général des Nations Unies, le président du Conseil de la Commission de l'Union africaine, le président de la SADC et le président de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Ces quatre personnalités, ensemble, doivent veiller à ce que chacun respecte ses engagements. Donc, il reviendra à ce groupe de décider le moment venu ou quand c'est nécessaire, comment il faut distribuer les points.
Oui, M. Mounoubaï, on est sans ignorer, c'est vrai, vous l'avez dit, le gouvernement est responsable par rapport à l'esprit et la lettre de cette résolution, est responsable de la sécurité des populations, mais c'est un exercice difficile pour la RDC, et qui est d'ailleurs en phase de la réforme de l'armée et des services de sécurité.
Oui, c'est pas parce que c'est difficile que le gouvernement ne doit pas le faire. C'est un exercice difficile. Le gouvernement aujourd'hui a l'appui de la communauté internationale, a l'appui des organisations régionales et a l'appui de tout le monde. Donc, je pense que avec ces différents appuis et ces différents soutiens, le gouvernement peut déjà au moins tenter, commencer à faire quelque chose et chacun verra comment donner plus, soutenir plus pour permettre au gouvernement d'arriver à ses fins.
Oui, avant de rentrer encore là-bas en ligne avec nos auditeurs, M. Mounoubaï, au niveau de la presse locale, tout le monde se pose la question sur les garanties que donnent les Nations Unies par rapport à cette force intervention neutre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut attendre à quoi? Est-ce qu'on peut être sûr qu'effectivement il y aura la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo après le mandat de cette force?
Encore une fois, je pense que la représentante, l'envoyé spécial de M. Ban Ki-moon l'a dit, la solution ne peut pas qu'être militaire. L'action militaire doit être sous-tendue aussi par une action politique. N'importe où, partout où il y a eu des guerres, partout où il y a eu des différends entre différentes parties, même quand les armes tonnent, même quand les armes ont cessé de tonner, la solution définitive est toujours par un accord politique. Donc on ne peut pas croire, on ne peut pas espérer que seulement une solution militaire peut régler le problème de la République démocratique du Congo. Oui, il est important de faire taire les armes, mais il est encore plus important de trouver des accords pour que tout le monde puisse définitivement tourner le dos à l'utilisation des armes.
Nous prenons Michel qui est à Matadi. Michel, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Michel.
Oui, j'ai bien suivi l'invité, que j'ai salué d'abord. Tout ce qu'il dit là, c'est bien, parce que la bonne manière de vaincre une guerre, c'est de l'éviter. Moi, je crois que les Nations Unies devaient aider le Congo. La seule solution, le Congo devait avoir une armée qui devait prendre sa propre charge. Vous savez, lorsqu'on a l'habitude toujours de tendre la main aux autres, nous avons vu. Lorsque nous avons eu des problèmes avec des rebelles, nous avons donné le mot de passe aux Angolais. Ils sont venus nous aider. Mais il y a eu des choses qui se sont passées. Les problèmes du Congo, parce que cette partie est tellement riche, que même les Nations Unies mettent aussi des yeux. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils devaient aider le Congo afin que le Congo puisse avoir une bonne démocratie. Parce que ce qui engendre toutes ces choses, ce sont les différentes frustrations. Ça, c'est connu. Parce que lorsqu'on voit une population qui est tellement pauvre, mais vivant dans un pays riche, c'est inacceptable. C'est maintenant toutes ces frustrations qui cherchent à voir. Ce n'est pas seulement le MP3. Il y a beaucoup de petites groupuscules d'armées qui sont dans des coins, qui font des choses, c'est parce qu'ils sont ignorés, ils sont négligés. Moi, je crois que la meilleure manière que les Nations Unies devaient aider le Congo, c'est d'abord de faire donner la bonne démocratie. Aujourd'hui, je vois déjà dans des choses vulgaires, les Nations Unies ne mettent pas des pieds. Voyons voir par exemple ce qui s'est passé dans notre Assemblée nationale avec la CENI, la nouvelle structure. On sait déjà qu'il y aura des problèmes. Les Nations Unies qui gèrent des pays, ils devaient déjà en ce moment se gérer dans ces problèmes et qu'à la fin, il n'y ait pas de situation. Donner à notre armée, lors du 50e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous avons vu le président Kabila nous a montré des engins en armement et il a mis dans son mot. Il dit maintenant le Congo est prêt d'attaquer tous les pays qui perdent la guerre. Mais maintenant, ces engins-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Même lorsque les gens se donnent à des marches, on fait nous voir des qualités d'armement au combat de cette population qui n'a même pas d'armée. Mais nous voulons voir que ces engins aillent combattre le MP3. C'est dans ces manières. Et lorsque les gens meurent au vu et aussi de cette MONUSCO, moi je crois que les Nations Unies ont une autre manière pour aider le Congo. Je vais dire à l'invité que trop c'est trop. Parce que les temps qu'ils ont fait, il y a des gens qui ont connu des morts sous les rosiers. Ce qu'il fallait faire, c'est aider le Congo à avoir une armée républicaine, une armée solide qui devait avoir la charge de protéger les villes, de protéger la richesse, de protéger aussi les peuples.
Donc vous, Michel,
la meilleure manière de vaincre une guerre, c'est de l'éviter.
Voilà. Donc, Michel,
il n'y aura pas un vainqueur, il n'y aura pas un vaincu.
Voilà. Si je comprends bien, Michel, vous demandez à ce que les Nations Unies aident le Congo à pouvoir réformer son armée et le service de sécurité. Et c'est de cette façon-là qu'on pourrait éviter les guerres successives au niveau de dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, Michel n'est plus en ligne. On va prendre Galvani qui est en Bujimaï. Bonjour Galvani.
Bonjour Gérard, bonjour à tous.
Vous avez la parole Galvani.
Je voudrais reprendre un peu la question parce que je viens de vous prendre encore.
Voilà, nous avons dit que le déploiement en RDC de la brigade d'intervention de la MONUSCO est imminent. Cette force sera composée d'un peu plus de 3000 casques bleus et disposera d'un mandat spécifique, neutraliser les groupes armés dont les M23. Alors l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Marie Robinson, est arrivée dimanche 28 avril dans la soirée à Kinshasa. Elle entame déjà une tournée régionale consacrée à la mise en œuvre de l'accord d'Addis Abeba sur la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, le M23 continue à intensifier sa communication contre cette force. Alors selon vous, que traduit cette intense communication du M23 et que pensez-vous de cette force?
D'accord, bon, l'intense communication du M23 prouve que non, ils sont déjà sur la mort prochaine qui arrive. Donc, nous saluons d'abord l'arrivée de la brigade internationale. Parce que nous ne devons pas seulement commencer à chercher que non, le gouvernement n'a pas su gérer l'armée. Bien sûr, ça c'est déjà entendu et c'est connu de tous. Mais présentement, nous avons besoin de pacifier l'est de la RDC. Et ce n'est pas avec notre armée qu'on peut le faire. C'est avec l'appui des Nations Unies qui peuvent nous aider en nous débarrassant d'abord des forces négatives. Mais là, lorsque la force internationale sera là, en normal, le gouvernement ne doit pas croiser les bras. Il doit aussi, en aval, essayer de réformer l'armée. Bien sûr, la réforme a commencé avec les recrutements, mais jusque-là, on ne sait pas jusqu'à ils sont où maintenant, à quel niveau, on ne sait pas. Mais c'est ça le gouvernement. Non seulement on doit réformer l'armée, nous devons aussi promouvoir aussi le dialogue, comme celui qui a été lancé par le président de la République, mais jusque-là, qui est presque l'être mort. Nous devons cesser de croire, de dépendre ailleurs, mais en attendant, nous devons aussi préparer nos défenses avec la réforme de l'armée et aussi promouvoir la démocratie, l'économie du pays. Parce que si vous remarquez bien, ces groupes-là sont composés de jeunes. Ce sont des jeunes, des ouvriers qui manquent quoi faire, ils se réunissent, ils commencent à prendre aussi des armes. C'est ça le problème. La force internationale agit sur terrain. Le gouvernement, de son côté, est en train de préparer l'armée parce que la force internationale ne va pas rester à l'est ou du bon. Il faut pérenniser la paix qui sera donnée là-bas. Il faut qu'elle soit pérennisée par notre propre force. C'est ça que ma contribution.
Merci beaucoup, Galvani. Nous rejoignons le colonel Prosper Félix Basse qui est en ligne avec nous. Colonel, vous êtes encore avec nous?
Oui, je suis en
bon. Voilà, aujourd'hui, la problématique Maï-Maï, pour certains politiques, ça peut constituer un frein même à ce travail que va faire la force d'intervention neutre sur les terrains.
Répétez votre question.
Voilà, je disais la problématique Maï-Maï, parce que le Maï-Maï à Koutoumba, les Maï-Maï qui sont, disons, éparpillés à travers le nord du pays, nord-est, ça peut constituer quand même un frein pour le travail que va faire la force d'intervention neutre.
Mais vous savez, le déploiement de cette force d'intervention, comme l'a dit tout à l'heure le porte-parole civil, M. Mounoubaye, à partir de Kinshasa, le déploiement de cette force a un objectif bien précis. C'est de traquer et de désarmer tous les groupes armés qui sont d'abord au nord Kivu, et puis peut-être que dans une deuxième phase, les gens iront au sud Kivu. Donc, si vous estimez que les Maï-Maï ont le droit de porter des armes et de mener des exactions contre les populations civiles, je vous dirais, oui, les Maï-Maï qui seront dans cette position entreront dans le cadre des objectifs qui ont été assignés à cette brigade d'intervention. Parce que nous ne faisons pas de différence entre le M23, les FDLR et les autres groupes. seules les forces de défense de sécurité autorisées ont le droit de porter des armes et de mener des activités liées à la sécurisation des populations civiles. Donc, de notre point de vue, ce qui est visé à travers tout ça, c'est la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Et la décision qui a été initiée pour le déploiement de cette force a été faite en réaction à la situation sur le terrain. Donc, ces opérations seront conduites ou de manière unilatérale ou de manière conjointe. Et il faut aussi rappeler que cette brigade d'intervention est une composante intégrale de la force de la MONUSCO et elle sera sous le commandement direct du commandant de la force d'intervention. Donc, pour vous dire de manière très globale, que cette brigade est un outil additionnel mis à la disposition de la MONUSCO avec une mission spécifique qui sera de désarmer et de neutraliser les groupes armés toutes tendances confondues.
Et les 17 000 hommes de la MONUSCO pourraient aussi, d'une manière ou d'une autre, intervenir, parce que vous parlez d'un mandat robuste, hein, est-ce qu'ils pourraient chaque fois aussi, dans la mesure du possible, tirer?
Vous savez, d'abord, il faut préciser encore que la MONUSCO n'a qu'une seule force, avec un seul mandat, et cette brigade d'intervention qui sera intégrée à la force de la MONUSCO et qui sera sous le commandement du commandant de la force de la MONUSCO aura une mission de protection des populations civiles. Notre mandat n'a pas changé. À l'intérieur de la force, il y a une brigade d'intervention qui aura une mission spécifique, mais tout ceci entre dans le cadre de la protection des populations civiles. Donc, la MONUSCO a une seule force et un seul mandat, et l'objectif visé, c'est la protection des populations civiles.
Oui, mais c'est ça. Au fait, pour les commets des mortels, il y a tout de même des difficultés pour comprendre les travaux que pourrait faire actuellement cette troupe de 17 000 hommes. Est-ce qu'ils ne vont pas tourner les pouces?
Mais vous savez, si c'est une seule force, je pense que la dynamique sera globale. C'est toute une force qui s'active à protéger les populations civiles. C'est pour ça que je veux clarifier cette chose. C'est-à-dire que c'est la force de la MONUSCO qui a pour mandat de protéger les populations civiles. Vous savez, il y a d'autres brigades qui existent au sein de la MONUSCO. Vous avez la brigade de l'Ouest, la brigade de l'Ituri, vous avez la brigade du Nord Kivu, la brigade du Sud Kivu, et vous avez des unités dans le secteur 2, donc Kisangani, et vous avez des brigades, d'autres unités qui sont au Katanga, qui constituent le secteur du Katanga. Donc, si vous avez une approche holistique de la force de la MONUSCO, vous comprendrez que c'est toute cette entité qui concourt par ses activités quotidiennes à restaurer la paix et la sécurité pour les populations civiles. Donc, à l'intérieur de cette brigade, vous savez, ce sera, tout le monde soutiendra tout le monde. Il y a une brigade qui a une mission spéciale, elle va conduire ses opérations, mais elle sera soutenue de manière globale par toute la composante de la force de la MONUSCO qui contribuera à permettre à cette brigade d'avoir des résultats. Évidemment, ce qui est souhaitable par le déploiement de cette brigade, c'est d'amener les groupes armés à comprendre qu'il faut faire cesser la violence. Donc voilà, de manière très globale, ce que je peux vous dire, c'est une dynamique globale, c'est la dynamique de la force qui va être mise à contribution pour restaurer la paix et l'autorité de l'État au Nord Kivu d'abord, et puis peut-être plus tard, selon la mission qui lui sera assignée plus tard, ailleurs.
Voilà, je repose la même question à Mounoubaï sur les 17 000 et les 3 000. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver à un certain moment où les 17 000 vont tourner les pouces, parce que vous venez de dire tout à l'heure que chaque gouvernement est responsable de la sécurité des populations, et au même moment, les 17 000 vont faire le même travail, c'est-à-dire sécuriser, protéger la population. Est-ce que, quelque part, on se retrouvera pas sur un terrain où les 17 000 vont tourner les pouces?
Non, je pense que le colonel a été très clair, mais pour moi qui suis un civil, regardant la situation comme un civil, je prendrai peut-être l'exemple d'une équipe de football. Une équipe est sur le terrain et l'objectif c'est d'empêcher de prendre des buts. Ne pas prendre des buts, c'était ça notre objectif, c'est-à-dire protéger des civils. et nous avons fait le match, disons, pendant très longtemps avec seulement 9 joueurs. Nous n'avions pas les attaquants pour marquer le but. Nous nous préoccupions de ne pas prendre les buts, c'est-à-dire protéger les civils. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, une équipe entière. Nous avons maintenant nos attaquants. Pendant que nous avons les défenseurs pour continuer à protéger les buts, nous avons maintenant nos attaquants qui vont essayer de marquer les buts contre l'adversaire. Je pense que le mettant comme ça, peut-être, c'est juste un exemple pour faire comprendre. Nous avons maintenant une équipe de 11 sur le terrain, non plus 9. Nous allons continuer à garder les buts, mais nos avant-centres auront maintenant l'objectif de marquer les buts. Voilà.
Voilà. Assistant Samy, vous êtes à Mahagui et Mathieu à Kananga. Assistant Samy, bonjour.
Bonjour, monsieur JR.
Votre point de vue.
Merci beaucoup pour m'avoir donné encore la parole. Je pense que moi, je ne voudrais pas m'attarder beaucoup sur cette composition, cette unité de la brigade d'intervention rapide, mais plutôt, je suis très jaloux de l'unité de mon pays. En tout cas, il me semble que l'un des trois n'est même pas inquiété par l'arrivée de la force de la brigade d'intervention des Nations Unies. Et là, à mon avis, témoigne qu'il compte sur un certain nombre de soutiens de la part de ses alliés. Je suis en train de m'étonner de l'arrogance du fait que l'un des trois est en train de saboter la résolution 2098 des Nations Unies, en nommant même de nouvelles autorités politico-administratives à la tête des trois entités administratives, dont le territoire de Rutshuru, de Nyiragongo et la cité de Kiwanja. Nous ne comprenons pas de quoi s'agit-il. Hein? Il est en train de consolider petit à petit son administration sur l'espace sous son contrôle. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour l'épée de notre pays. Je peux dire même que l'épée de Damoclès reste toujours suspendue sur l'épée de mon pays. On peut qu'on craint l'arrivée de la brigade, on craint que l'arrivée de la brigade d'intervention de l'ONU ne vienne concrétiser la balkanisation de la République démocratique du Congo. Je vais maintenant revenir sur la tournée de Mme Robinson. Allez, la tournée de Mme Robinson dans la région des Grands Lacs, en rapport avec cette tournée, moi je trouve que cette tournée semble être entourée de beaucoup de confusion. J'ai été surpris d'apprendre à travers plusieurs chaînes étrangères les différentes déclarations, les différents propos de Mme Robinson, quand elle voulait donner par exemple sa position sur le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Elle est arrivée à Kinshasa, elle a déclaré que la présence de la brigade d'intervention rapide de l'ONU allait contribuer à un retour rapide de la paix à l'est de la RDC. Mais elle arrive à Kigali, elle sait d'autres propos. Elle dit à Kigali que la présence de la brigade d'intervention rapide sera une partie des solutions aux problèmes de l'Est. Mais le grand problème, c'est en fait les concertations politiques, c'est-à-dire il faudrait que l'on arrive à trouver des solutions politiques aux problèmes de l'Est. Elle rejoint aussi ce que le gouvernement rwandais a toujours dit tout haut à travers sa ministre de la Défense pour dire que non, bon, vous savez, le problème de l'Est, la présence de la brigade d'intervention de l'ONU ne va plus jamais résoudre le problème, il faut que les Congolais se fassent. Donc, on trouve qu'il y a quand même une ambiguïté dans tout ce qui se passe. Et cela m'interpelle un peu. Je suis très inquiet, je pense même que mon pays va très mal, très mal, et je ne sais pas comment dire.
Voilà, merci beaucoup, assistant Samy. Vous êtes très inquiet par rapport à ce qui se passe et surtout en mettant en exergue cette confusion dans les propos de l'envoyé spécial de l'ONU. Vous avez évoqué de propos tenus à Kinshasa qui est contradictoire à ceux tenus à Kigali. Voilà, on va accorder la parole à nos invités pour nous éclairer là-dessus. Merci d'avoir appelé, assistant Samy. Mathieu, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, cher.
Vous avez la parole, Mathieu.
En ce qui me concerne, la population congolaise devrait savoir le but et l'objectif principal des soi-disant M23 et d'autres parties des bandits-là. Puisqu'eux qui ne savent pas l'histoire de notre pays sont en train d'entendre de pied ferme l'arrivée sur terrain à l'est du pays des forces d'interposition des troupes étrangères comme la seule solution pour la fin de cette aventure, soi-disant guerre. Non. La solution de toutes ces aventures mystérieuses pour parvenir à la paix doit passer par le dialogue entre nous, Congolais, y compris même les chefs des bandes armées là, des M23 et les autres groupes de bandits est au service des autres grandes puissances de la communauté internationale sous la présidence du Rwanda afin de faciliter l'accès de parvenir à l'essentiel, c'est-à-dire la balkanisation du Congo. Puisque c'est plus riche, nous, ce qu'on peut faire de la part de la communauté internationale, c'est quoi? C'est de nous faciliter, la communauté internationale doit nous faciliter à parvenir, à se mettre dans une même table de négociation pour parler, après la force d'intercession, ainsi de suite. C'est tout simplement une simple distraction. Aujourd'hui, le pays est pris en otage par la communauté internationale elle-même. Nous sommes maintenant capables d'accepter tout ce qu'ils nous disent, sauf rien. Parce qu'ils savent que les Congolais ne sont pas unis. Ils veulent toujours vivre en désordre.
Voilà, Mathieu. Oui, Mathieu, je retiens.
Oui,
voilà, je retiens que vous prenez pour les dialogues entre Congolais, qu'on se retrouve autour d'une même table, qu'on discute sur des problèmes concernant les Congolais pour amener à bon port les actions de développement. Merci beaucoup, Mathieu. Et vous craignez une chose, la balkanisation de ces pays en cas, par exemple, d'échec. Et nous avons reçu d'ailleurs un homme politique dans ces studios avant-hier qui a évoqué quelques aspects de ce genre. C'est vrai. S'il y a réussite, les choses devront aller dans les bons sens du côté de processus de la stabilisation et de la pacification du pays. Mais dans les cas contraires, lui aussi, il a évoqué cette option de balkanisation dans la mesure où les mêmes, disons, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est pratiquement le même film de la Yougoslavie, comme l'a dit notre invité de mardi dernier. Merci Mathieu d'avoir appelé. Simon, vous êtes à Matadi. Merci de nous rejoindre. Bonjour Simon.
Oui, bonjour. C'est Monsieur Simon Tsilulu Mayamona, coordinateur adjoint de la nouvelle société civile du Bas-Congo et porte-parole des enseignants. En fait, le problème de l'Est est là. Doit durer jusqu'à quand? Vous savez que le Grand Congo est mis à genoux à cause de sa jambe droite qui est l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous imaginez, messieurs et les auditeurs, un Grand Congo. Le Rwanda, c'est 26 000 quelques kilomètres. Ce n'est même pas le Bas-Congo qui a 53 000 quelques. Mais les grandes personnalités de ces pays, les prêtres, les pasteurs, les politiciens, sont partis pleurer aux États-Unis à cause des gifles de Rwanda. Ils disent non, Rwanda nous tape, Rwanda c'est en train de se moquer de nous. Nous pleurons là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ces pays? Vous savez, que ce soit la communauté internationale, le M23, la FRDC et certaines autorités nationales de la RDC qui sont des matchs avec ces gens, il faut les mettre dans un même pot. Et maintenant, du côté de la population, il faut que la population de l'Est, nous y compris, nous puissions nous mobiliser à une force pour essayer de contraindre tout ce monde-là, les attaquer,
oui,
nous
Simon,
avons
des Simon,
armes,
Simon,
mais
Simon,
nous
Simon,
serons des milliers.
Oui, Simon.
Ils vont nous attaquer par les armes, nous allons mourir, mais ils ne sauront pas nous exterminer.
Oui, Simon.
Nous allons les attraper par la gorge et nous allons laisser une grande leçon au monde.
Oui, Simon.
Mais le monde, la communauté internationale,
si on peut s'écouter, Simon.
Mais comment expliquez-vous?
Laissez-nous quand même vous poser une question de relance, Simon, parce que cette histoire de l'autodéfense, c'est ce qui nous a amené avec ces groupes de Mai Mai, ici et là, parce que c'est vrai, à l'époque, c'était l'occasion de se défendre. Mais les gens, voilà, ils sont restés comme ça dans cette optique pour pouvoir, et puis ils ont changé quand même de vision par rapport à leurs intérêts. Merci Simon d'avoir appelé de Matadi. Nous revenons à vous, M. Mounoubaï, parce qu'il y a eu pas mal d'inquiétudes hein, des uns et des autres, et on va accorder également la parole à mon colonel Prosper Félix. Mais d'abord, le propos contradictoire, comme l'a souligné l'assistant Samy de Mai, Agui dit les propos contradictoires de Madame Marie Robinson. À Kinshasa, elle a dit une chose, et à Kigali, et finalement, ce sont des propos contradictoires quand il parle de solutions rapides et puis une partie d'une solution.
Je ne pense pas qu'il n'y a pas de contradiction. Elle parle de la solution militaire et de la solution politique. Il n'y a pas de contradiction. Comme je l'ai dit ici, on ne peut pas croire que la solution définitive pour une paix durable en République démocratique du Congo ne sera que militaire. Donc, il y a une solution militaire dans l'immédiat, mais la solution à long terme ne peut être que politique. Il n'y a pas de contradiction dans ce que a dit Mme Robinson.
Alors, en cas d'échec de la force d'intervention neutre, qu'est-ce qui va se passer? Parce que donc, elle craigne déjà la balkanisation.
Concernant justement cette balkanisation, je ne pense pas que la balkanisation de la République démocratique du Congo pourra trouver écho au sein de la communauté internationale. Dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité a toujours réaffirmé son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est contenu dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, on ne peut pas dire que la balkanisation du Congo, l'idée d'une balkanisation du Congo trouvera écho au sein de la communauté internationale.
Oui, colonel Prosper, oui. Monsieur Mounoubaï, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, allez-y.
Oui, alors je pense d'abord, colonel Prosper, vous êtes avec nous?
Oui.
C'est vrai, aujourd'hui, bon nombre de Congolais craignent l'échec de cette force d'intervention neutre. C'est vrai qu'en cas d'échec, comme l'a dit M. Mounoubaï, bon, on ne peut pas, l'idée dans la tête de la communauté internationale, ce n'est pas de balkaniser, mais qu'est-ce qui peut constituer un élément fort qui pourrait amener, ou pardon, un élément, un facteur qui peut constituer, qui peut amener cette force à un échec?
Ben, je crois que j'appellerai d'abord tout le monde à soutenir cette initiative de la communauté internationale qui, par la résolution 2098, a donné des moyens additionnels à la force de la MONUSCO pour ramener la paix et sécuriser les populations civiles de manière durable. Et je suis tenté de m'interroger sur... justement, cette approche un peu pessimiste de cette brigade d'intervention. Je pense que soutenons et aidons cette brigade à arriver et soutenons les actions que cette brigade va, les actions qu'elle va mener, parce que n'oubliez pas que c'est la volonté de la communauté internationale exprimée dans cette résolution qui va être mise en œuvre par le déploiement de cette force. Cette force aura besoin de tout le soutien nécessaire, et je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens pourraient préjuger déjà de son échec. C'est justement cette interrogation qui est quand même assez fondamentale, parce que je pense que les gens devraient plutôt soutenir l'action de cette force, remercier les pays qui ont accepté de mettre leurs ressortissants à la disposition du peuple congolais pour ramener la paix, désarmer les groupes armés, rétablir l'autorité de l'État dans cette province. Donc je pense que nous avons besoin du soutien plutôt que d'approches pessimistes qui pourraient décourager tout un chacun.
Oui, colonel Prosper, c'est vrai, le succès de la force Artemis était lié aussi à beaucoup de paramètres. Nous sommes là dans un contexte aussi différent par rapport à la force d'intervention neutre. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire par rapport à ça aussi?
Répétez votre question.
Alors, donc, je parlais de la force Artemis pour la pacification de l'Ituri. Alors, aujourd'hui, oui, c'est la force d'intervention neutre. Nous sommes dans des contextes différents. Vous demandez à ce qu'on puisse soutenir la force. C'est vrai, à l'époque, on avait également soutenu la Artemis. Il y a eu notamment aussi d'autres facteurs qui ont concouru à la réussite de cette opération. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent. Est-ce que vous ne craignez pas, c'est vrai qu'il y ait beaucoup à faire pour arriver au résultat?
Mais vous savez, que le contexte soit différent est une réalité, quel que soit le contexte qui pourrait être prédominant, on a toujours besoin du soutien des populations. On a toujours besoin du soutien de toute la communauté internationale que nous avons toujours, que nous avons eu. Mais Artemis était une autre réalité là-bas en Ituri, et Je voudrais aussi appeler un peu l'attention de la population sur les activités qui sont menées aussi par l'armée congolaise. La force d'intervention n'est pas une panacée, comme l'a dit M. Mounoubaï. La force d'intervention n'est pas la seule solution. J'ai entendu tout à l'heure un de vos auditeurs, je pense qu'il s'appelle Mathieu.
Ou Mathieu des Canards.
Qui a fait allusion à quelque chose de très important, qui est le dialogue congolais. C'est-à-dire que il y a d'autres dynamiques qui sont initiées. Il y a d'autres initiatives qui ont été mises en œuvre. Et tout ceci va concourir à apporter la solution, c'est-à-dire à atteindre les objectifs que nous ont assignés la communauté internationale. Il ne s'agit pas tout simplement de la MONUSCO à elle seule qui doit aller chercher la solution, qui doit déployer les trucs. Il y a l'armée congolaise qui est notre partenaire, qui est en train de faire du travail aussi sur le terrain. Cette force va se déployer afin de mener des opérations unilatérales, mais aussi des opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité du Congo. Donc je pense que il ne faut pas préjuger d'un échec probable avant même le déploiement de cette force. Cette force aura besoin du soutien des populations, cette force aura besoin du soutien de tout le monde, aussi bien que la MONUSCO aura besoin du soutien aussi bien du gouvernement, aussi bien des populations civiles, en fait de toute la composante congolaise pour essayer d'arriver à ces objectifs qui nous ont été assignés, qui sont des objectifs nobles. Parce que vous voyez, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Donc, nous demandons tout simplement un soutien des populations civiles. Vous savez, même dans les activités militaires qui sont conduites, il y a un facteur déterminant, c'est les populations. Quand les populations adhèrent, je veux dire que ça devient un multiplicateur de force et ça devient aussi un élément assez, je veux dire, encourageant pour les gens qui vont travailler sur le terrain. Mais je pense que d'ici là, cette force se déploiera fera tout pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par la communauté internationale. Mais aussi, c'est un outil qui est destiné à soutenir les objectifs politiques dans l'accord cadre qui a été signé. Donc voilà.
Alors une dernière question pour vous, mon colonel. C'est vrai. Est-ce que le mandat d'une année accordé à cette force compte à dater du jour de vote de la résolution, ou bien comptera le jour où cette force sera réellement déployée en RDC?
Non, mais le mandat, il court à partir du moment où il a été adopté.
Donc, si jamais ce déploiement intervenait au mois de juillet ou de mois de juin, donc il faut compter déjà le mois de... Donc, il faut soustraire le mois de... Deux mois d'avance, c'est-à-dire le mois d'avril et le mois de mai.
Donc, il ne restera que 10 mois. Vous savez, nous n'entrons pas dans les calculs d'épiciers. Nous prenons en compte une chose, cette force est déployée pour un an à partir de la date de l'adoption de la résolution 2090 qui a été rendue publique, et elle court pour la période considérée. Maintenant, à l'intérieur de ce créneau qui nous a été donné, beaucoup d'activités vont être menées afin d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Donc je pense que c'est la lecture qu'il faudra faire de cette résolution plutôt que d'entrer dans des détails assez... voilà.
Merci beaucoup, mon colonel. Et nous vous remercions d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation et nous rappelons à nos auditeurs que vous intervenez depuis Goma, là où vous êtes, dans nos studios de Goma. Merci encore de votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, je reviens à vous, M. Mounoubaï. J'ai parlé tantôt là de calendrier, à dater de quand, ça court de quand. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce que le colonel venait de dire?
Non, mais je pense que le colonel, actuellement, il a raison. Parce que c'est à partir du moment où cette résolution a été adoptée que la brigade a été créée. Et c'est à cause de cette résolution que des pays comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Namibie ont décidé de donner des forces pour venir, donner des troupes pour venir constituer la brigade d'intervention. donc la brigade, l'existence juridique de cette brigade court à partir de la date de l'adoption de la résolution 2098. Ceci étant dit, je voudrais revenir à un de vos éditeurs qui s'était plaint de ce que la communauté internationale ne soutient pas l'effort de la réforme des FRDC. Je dirais certainement que ce n'est pas vrai, parce que plusieurs brigades de FRDC ont été formées par différents États. On a eu la France qui a formé des brigades, la Belgique a formé des brigades, l'Afrique du Sud a formé des brigades, la MONUSCO, la MONUC et la MONUSCO aussi ont formé des brigades. Donc tout ça rentre dans le cadre de cet effort de la communauté internationale pour doter l'armée congolaise de brigades formées et donc à même de conduire sa mission régalienne, celle de la protection de la souveraineté de la République démocratique du Congo.
On va prendre les deux derniers auditeurs qui sont en ligne, Paul qui était à Kananga et Ruffin à Kikwit. Paul, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Paul.
Ok, merci pour m'avoir accordé la parole. Bon, le gouvernement de Kinshasa, notre gouvernement, nous dit que le M23 est un mouvement pro-rwandais. Donc, il faut se garder. Mais au lieu de nous, Congolais, qui sommes à Kananga, le gouvernement de Kinshasa est considéré comme pro-rwandais. Devant cette constitution, la brigade qui vient, elle vient pour soutenir le président, c'était dit ou le gouvernement de Kinshasa? C'est ça la question que je voulais poser à notre invité.
Voilà, merci beaucoup, Paul, d'avoir appelé. On va terminer avec vous, Rifin. Vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Votre correspondant vous a mis.
Voilà, on a des soucis là avec Rifin. Bon, je crois qu'on va répondre à cette question avec notre invité qui est dans le studio. Quelqu'un qui pose la question de savoir est-ce que cette troupe vient soutenir ou protéger les gouvernements en place ou c'est réellement travailler pour l'intérêt de la population. Je crois si j'ai compris sa question.
Bon, ben je crois que les deux choses sont les mêmes. L'intérêt de la population et le gouvernement en place. C'est un gouvernement légal, c'est un gouvernement qui sort des élections. C'est ce gouvernement qui est reconnu sur le plan international et qui représente le Congo dans toutes les instances internationales. C'est donc avec ce gouvernement que cette force va travailler. C'est ce gouvernement qui gère le pays. Donc, pour nous, nous ne voyons pas une autre entité que ce gouvernement.
Alors, un commentaire, Monsieur Mounoubaï, parce qu'aux dernières nouvelles, le M23 vient de nommer des nouveaux administrateurs du territoire à Nyiragongo, à Rutshuru et à la cité de Kiwanja.
Vous savez que le Conseil de sécurité a déjà demandé au M23 de cesser immédiatement la mise en place de ce gouvernement ou de cette administration parallèle que
donc
le Conseil de sécurité condamne.
C'est une provocation.
Mais bien entendu, le Conseil de sécurité a aussi demandé au M23 de lever toutes les barrières qu'il a mises en place pour collecter des taxes. Donc cela n'entre que, c'est une fuite en avant je dirais, pour le M23, parce que toutes ces actions, tous ces actes qu'il est en train de poser actuellement ont déjà été condamnés par le Conseil de sécurité.
Les journaux parus ce matin ont fait état de la déclaration de la société civile du Nord Kivu lance une sonnette d'alarme en disant que le Rwanda se prépare pour renforcer le soutien au M23.
Nous avons pris aussi connaissance de cette déclaration à travers les journaux. Je pense que ce sont des déclarations qui n'engagent pour le moment que la société civile du Nord Kivu. En ce qui nous concerne, nous travaillons avec la commission, l'équipe de vérification conjointe qui est sur le terrain pour vérifier toutes ces allégations, toutes ces accusations et faire rapport lorsqu'il y a des choses à rapporter.
Alors, d'aucuns souhaitent également qu'il y ait une forte sensibilisation de la population du Nord et du Sud Kivu quant au déploiement de cette brigade. Il faut une campagne de sensibilisation de la population pour que celle-là puisse bien comprendre le tenant et les aboutissants. Est-ce que au niveau des Nations Unies, cet aspect des choses est pris en compte?
Oui, cet aspect de choses sont pris en compte. Mm-hmm. Par exemple, l'émission que nous faisons aujourd'hui rentre dans cet effort d'information de la population. Localement, les radios et les journalistes au Nord Kivu sont informés par nos collègues qui sont là-bas. Donc oui, effectivement, et d'ailleurs, les différentes conférences de presse qui ont eu lieu depuis que cette résolution a été votée traitent aussi de ce sujet. C'est une remarque qui est tout à fait légitime. Nous faisons cet effort, nous essayons de le faire pour informer la population afin qu'elle sache dans quelles conditions cette brigade va être déployée et la mission qui lui est affectée.
Alors, un dernier mot, Mounoubaï, avant qu'on se quitte, parce que les auditeurs ne sont plus en ligne, ils étaient nombreux d'ailleurs à participer à ces débats. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'ensemble?
Ce qu'on peut retenir dans l'ensemble, c'est que la mise en place de cette brigade d'intervention fait suite à, je dirais, à une remarque de la communauté internationale, du Conseil de sécurité, que l'insécurité persiste à l'est de la République démocratique du Congo à cause de l'existence de ces groupes armés et qu'il est important de mettre fin à l'existence de ces groupes armés pour essayer de réduire, sinon de mettre fin à cette insécurité qui crée des déplacés à tout vent. Mais aussi, cette solution militaire n'est pas la solution. Nous pensons que la solution doit aussi inclure un volet politique qui ne peut être que le fait de toutes les parties concernées par ce qui se passe à l'est du Congo.
Manoj Mounoubaï, vous êtes le porte-parole civil de la MONUSCO. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de faire le déplacement de ces studios.
Merci de votre invitation et c'est toujours avec un plaisir que j'échange avec les auditeurs de Radio Kafé.
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Claude Siala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Nkoutou l'a réalisé et Jir Lungebo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiokafé.net. Quatre journalistes éditeurs des journaux paraissant à Kinshasa sont aux arrêts depuis mardi, selon les communiqués du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Ces professionnels des médias sont accusés de chantage. Nous en parlons demain, donc prenez déjà rendez-vous avec nous. À très bientôt.